Rio, la beauté à tout prix. Michel Pomarède, Gilles Mardi-Rossian. Le culte de l'apparence physique est une institution au Brésil. C'est ainsi que la chirurgie esthétique est entrée dans les mœurs depuis 30 ans, et ce, dans toutes les classes sociales. Avec près d'1,5 million d'opérations par an, le Brésil a ravi la première place au palmarès à son voisin américain. Mieux encore, les tarifs compétitifs des cliniques brésiliennes, 30% moins chers qu'en Europe, ont créé un véritable tourisme esthétique. Conséquence, on vient du monde entier pour se refaire une beauté, notamment à Rio. La liposuction et les implants de silicone dans les seins arrivent en tête des préférences des Brésiliens, mais ces derniers se lancent de plus en plus dans les opérations du visage et notamment du nez. Comptez 10 000 euros pour rivaliser avec Cléopâtre, paiement au comptant ou à crédit. Au pays de la samba, on va voir le chirurgien quand on cherche un nouvel emploi ou après une rupture sentimentale. Pour comprendre cet essor, il faut aussi remonter au droit à la santé pour tous, instauré par la Constitution de 1998. Et la santé, pour les Brésiliens, est synonyme d'état esthétique et physique à cultiver, et pas comme chez nous, à l'absence de maladie. Autre facteur important, l'influence des médias. Depuis des années, le magazine Plastica et Beleza, ou le groupe de télévision Globo, contribuent à façonner le pays comme un décor de modernité et de glamour. Un décor qui a besoin de personnages qui s'identifient à cet impératif de beauté. D'où par exemple ce genre d'excès.
À 31 ans, Rodrigo Alves a déjà subi une trentaine d'opérations chirurgicales qu'il expose sur sa page Instagram. Élargissement du sourire, implants pectoraux, reconstruction nasale à 4 reprises. Le Brésilien n'a pas volé son surnom de Ken Humain, en référence au fiancé de la poupée Barbie. Complexé par son corps, il a dépensé 220 000 euros pour se métamorphoser. Et malgré quelques complications médicales, il ne compte pas s'arrêter.
Il ne ressemble pas à Ken, loin s'en faut. Mais Paulo Sergio est musclé, tatoué, bronzé et arbore un piercing à l'oreille. Ce coiffeur de 32 ans colle quasiment à l'archétype de l'homme brésilien véhiculé par la publicité. Pas étonnant que le recours à la chirurgie esthétique pour les hommes ait explosé de 20% depuis 4 ans. Une hausse qui se concentre particulièrement sur les implants en silicone pectoraux et ce qui augmente la masse musculaire des fesses et des mollets.
Ah, a gente sempre quer, né, ficar na capa da revista. A gente faz da melhor maneira. Sim, acho que você.
C'est vrai, je rêve comme tout le monde de faire la couverture des magazines.
De você entrar no mercado, querer entrar no mercado.
Mas também je veux être bien coté sur le marché.
Neurótico com corpo.
Mais je ne suis pas complètement obsédé par mon corps.
Tô bem. Também. Meu nome é Paulo, Paulo Sérgio, tenho 32
Alors oui, j'ai fait de la liposuction parce que j'étais complexé par certaines rondeurs.
Filipo, porque era uma parte
et j'ai trouvé que c'était la façon la plus rapide de m'en débarrasser.
E aí eu achei a parte,
j'avais alors 28 ans
maneira mais rápido
et aujourd'hui je suis prêt à faire ça à nouveau.
E aí foi a lipo. E aí fiz, gostei do resultado e um dia ainda pretendo fazer de novo. No momento, naquele momento, sim.
J'aurais pu aller dans une salle de sport.
Na academia eu achei que teve uma
mais ça prend des mois pour maigrir. Alors que là, l'intervention chez le chirurgien dure 3 heures et c'est fini. Aujourd'hui, j'ai un peu repris du poids. Mais je me souviens qu'il y a 4 ans, quand j'ai choisi de faire une liposuction, je n'en ai parlé à personne. Je l'ai fait et je suis rentré chez moi. Ma famille s'en est aperçue, on en a parlé, et je dois dire que j'étais très satisfait. J'ai perdu à l'époque 2 kg et 100 grammes en quelques heures. Avec mes copains, on parle de chirurgie esthétique librement. Mais c'est sûr que pour les femmes, ça devient plus facilement un vice. Nous, les hommes, on fait le ventre et puis c'est tout. Les femmes, elles commencent par le ventre, puis elles se font refaire autre chose. Elles n'en finissent pas. Moi, c'est vrai, j'avais un petit peu peur avant de me lancer. Mais la surcharge pondérale était trop grande et j'y suis allé.
La beauté, c'est un mot qui revient beaucoup au Brésil. Mais pour vous, essayez de me définir, qu'est-ce que c'est qu'une femme belle et un homme beau ?
Moi,
mes critères, C'est d'abord l'humain qui compte.
Mais logique, la première chose est le corps.
C'est la personne tout entière qui est belle.
Depois que você vai ver o que é que tem ali por dentro daquele corpo.
Mais il est évident que la première chose que l'on voit chez l'autre, c'est son corps. Et ici au Brésil, on juge beaucoup l'apparence physique.
A gente aqui, tipo assim, mulher aqui brasileira, a gente já gosta de corpo. Eu sei que já,
em Paris, France, vous aimez les femmes minces. Nous ici, on aime chez la femme qu'elle ait des fesses, des cuisses, qu'elle soit bronzée.
E o homem também, o homem tem as
Pour les hommes, c'est pareil.
Até mesmo porque eu acho que a cidade
Je pense que c'est Rio qui réclame ça.
Absolument, chegou essa época.
Principalement pendant l'été.
Você vê muitas pessoas, a academia fica
Les salles de sport sont bondées.
As pessoas gostam de valorizar mais o corpo,
mostram Les carioca travaillent leur corps pour le montrer et nous, on fait tous pareil. On montre de belles choses et on va voir de belles choses.
Onde você está chegando? Hoje em dia eu gasto mais com, tipo, hoje em dia eu tô gastando mais com a academia.
En ce moment, je dépense beaucoup d'argent en séance de musculation à la salle de gym. Et sinon, j'économise pour m'offrir une nouvelle chirurgie.
Si Ken cherche toujours sa Barbie, qu'il se rassure, nous l'avons trouvé un soir, invité d'un show télévisé à grande écoute. Son nom, Angela Bismarcki.
Angela Bismarcki!
Sensualidade de Angela Bismarcki.
Au spectateur, elle ne s'est pas fait prier pour montrer tous ses atours. Chevelure blonde, jambes filiformes, seins haut placés, mini-jupe, talons interminables, sourire un peu figé. Quand nous l'avons retrouvée, elle sortait de la salle de sport, look jogging tennis.
Aqui me chamo da rainha das plásticas. Na verdade, eles confundem muito procedimento com bisturi.
On m'appelle ici la reine de la chirurgie plastique. Mais les gens confondent le bistouri et les autres procédés esthétiques. Je n'ai fait environ que 10 opérations. Et puis bien sûr, quelques liposuctions. Oui, j'ai fait refaire mes seins et la reconstitution de l'hymen. Mais le reste, c'est surtout du Botox. Cela ne nécessite pas de passer sur la table du chirurgien.
Comment vous vous regardiez, jeune fille? Est-ce que vous étiez très critique, très exigeante par rapport à vous-même?
Bien, je suis une menina bien magrinha, alta, esguia, né?
Quand j'étais jeune, j'étais grande et maigre. Et puis j'ai commencé à m'entraîner. Je me suis mis à la danse et j'ai gagné de la masse musculaire. Mais c'est bien plus tard, quand j'ai eu mon premier fils, que je me suis décidée de refaire les seins qui tombaient un peu.
Que eu amamentei meu filho até os 7 meses. Aí foi minha primeira plástica.
J'avais alors 30 ans.
Acho que foi minha primeira
Je trouve que c'est tard.
Com 30 anos. Eu acho até muito tarde que hoje em dia.
Aujourd'hui, certaines jeunes filles commencent à 18 ans. Même si je trouve que c'est trop tôt pour aller voir un chirurgien.
Eu nunca imaginei fazer plástica, né? Porque eu fazia muitos exercícios de dieta.
Moi, à 18 ans, je passais mon temps à faire des exercices physiques.
Mas que não ficaram mais bonitas.
Et je suivais des régimes.
Mas hoje em dia as meninas estão começando muito
cedo, pas besoin de
que
tout
eu
ça.
Acho errado, dependendo do que é. Mama, eu acho que não deve 18 anos é muito
Et si encore une fois, j'ai refait mes seins. C'est parce que c'était vraiment nécessaire.
Tem que fazer já porque tá causando desconforto. Mas colocar prótese, tudo eu acho que tem que esperar amamentar.
Aujourd'hui, des jeunes femmes interviennent sur leur poitrine très tôt. Elles devraient attendre d'avoir leur premier enfant. Même chose pour la liposuction. Elles devraient attendre. Au Brésil, il y a la fête traditionnelle des 15 ans pour les jeunes filles. Eh bien, certaines se font refaire le nez. D'autres les oreilles. À mon avis, ça aussi c'est vraiment trop tôt pour retoucher son corps. Moi, je n'ai pas fait ça aussi jeune.
Mais Angela Bismarcki n'existerait pas si son mari, le chirurgien Wagner de Moraes, ne l'avait pas inventé, ou presque. Ce peintre du dimanche, qui orne de ses œuvres sa salle d'attente, ou patiente aussi des statues d'Apollon en albâtre, jouit d'une belle renommée à Rio. Pas évident, car la ville compte près de 650 de ses confrères, qui rivalisent comme lui du bistouri. Mais lui a épousé une femme qui sort de l'ordinaire.
Angela vous l'a dit, elle est connue dans tout le pays comme la reine de la chirurgie esthétique. Elle est même rentrée dans le Guinness Book pour ça. Mais les médias en rajoutent beaucoup. Ils adorent exagérer. En réalité, elle a fait 8 ou 10 opérations. Mais si on arrive à ce total, c'est normal. Elle a été mariée à d'autres chirurgiens esthétiques avant moi. C'était plus facile pour elle. Un peu comme si elle était mariée à un kiné, elle aurait fait beaucoup de massages. Quand j'opère Angela, je n'ai pas d'émotion particulière. C'est presque désagréable, car je sais qu'elle va un peu souffrir au réveil.
Você não quer ver quem você ama sofrer. No início é um pequeno sofrimento, sei que depois vai ser um grande.
Mais on discute de tout ça avant.
Por isso que eu dose.
La question est de mesurer la dose.
Tem que dosar muito.
De ne pas en faire trop.
Se você quisesse, nós já tínhamos, ela já tinha, teria feito muita coisa. Mas não precisa e não precisa mesmo. E
a gente Angela fait attention à elle.
Não é vantagem. Até porque ela sabe se cuidar melhor.
Elle vient de rentrer comme vous le voyez de la salle de sport.
É feito de cirurgia plástica.
Elle suit un régime équilibré, comme beaucoup de Brésiliennes. Elle sait prendre soin d'elle.
Est-ce que dans votre salon en bas, il y a une peinture que vous avez faite? Mais est-ce que Angela, ce n'est pas une peinture vivante?
C'est vrai que je me considère comme un plasticien dans tous les sens du terme. Je peins beaucoup pendant mes loisirs, mais j'ai du mal à redessiner Angela, car ça serait entrer en compétition avec Dieu qui l'a bien créée. Mais vous savez, j'ai toujours rêvé d'être chirurgien depuis que je suis petit. Quand à l'école on me demandait ce que je voulais faire, c'est ça que je répondais. Et c'est ça que j'ai fait quand je suis devenu grand à la faculté de médecine. Ici au Brésil, il y a deux métiers qui sont synonymes de super-héros. Chirurgien et pilote d'avion. Le point commun, c'est que nous avons la vie des gens entre nos mains.
Porque você, no caso, tanto do médico quanto do piloto do avião, nós estamos tratando de pessoas saudáveis, não estão doentes.
Et notre responsabilité commune,
então você tem realmente
c'est de prendre soin de ces gens qui sont en bonne santé.
Responsabilidade muito grande. Eu me formei há 43 anos atrás.
Aujourd'hui, cela fait 43 ans que je suis chirurgien.
Mais ou menos geral, quase fazendo tudo. Alguns anos depois,
au début, j'exerçais un peu comme un généraliste. Et puis à partir des années 70, la spécialité en chirurgie esthétique a explosé fortement dans le pays. Cela m'a plu, car comme je vous l'ai dit, j'aime dessiner. Donc je me suis identifié à cette mode qui s'est imposée à cette époque-là. Je dois dire que ma spécialité, c'est la rhinoplastie, c'est-à-dire la chirurgie du nez. Et ma première opération, je l'ai effectuée seule, alors qu'au début, on est toujours à deux, on est accompagné par un professeur. Cette première opération, c'était le nez d'une patiente.
Eu acho que isso é comum a todos os cirurgiões plásticos, porque a gente trabalha com a beleza
Et ce que ça a apporté à cette femme? Eh bien, comme nous travaillons avec la beauté, nous offrons une meilleure estime de soi à ceux qui viennent nous voir. Quand vous êtes arrivé, une jeune femme sortait de mon cabinet. Je viens de lui refaire le nez. Je suis sûr qu'elle est repartie très heureuse, avec un meilleur jugement sur elle-même.
A partir daí de si, a cirurgia plástica traz isso, leva sempre ao alto astral, um momento novo na vida de cada um. Todas as duas imagens são minhas.
Vous voyez sur ce mur ces deux tableaux? Ils sont de moi. Aussi bien Angela que j'ai dessinée que la Joconde que j'ai mis 3 jours à recopier. C'était un vrai travail d'apprentissage de dessiner Mona Lisa pendant plusieurs jours, de dessiner son visage et de chercher à comprendre pourquoi une femme qui n'est pas si belle a une expression si forte sur celui qui la regarde.
Vous êtes spécialisé aussi dernièrement dans la chirurgie de l'hymen. Est-ce que vous pourriez m'expliquer qui vient vous voir pour cette demande très précise?
C'est une intervention qu'on demande souvent aux chirurgiens dans des cas de viol. Et toutes les femmes que j'ai opérées étaient dans ce cas-là. Et alors, c'est l'État qui règle la facture, comme une compensation financière. Mais avec Angela, que j'ai également opéré, c'était sur un registre ludique. C'était pour s'offrir une lune de miel, une pure fantaisie sexuelle.
Sur un autre mur de son cabinet, entre une Bible ouverte sur un chevalet, un faux vitrail et un aquarium qui ronronne, il y a aussi une photo où Wagner de Moraes pose avec le pape de la chirurgie esthétique, Ivo Pitanghi. Celui par qui tout a commencé et qui n'a qu'un objectif, apporter du bonheur à ses patients. C'est en tout cas ce qu'il répète à longueur d'interview, comme ici, il y a quelques années, à la télévision libanaise.
Vous êtes le magicien qui, à l'aide d'un bistouri trempé dans la féerie, coupe, opère, reconstitue et pas transforme.
Oui, je crois que j'ai énormément de plaisir de savoir que la chirurgie, elle apporte le bonheur. Mais il faut aussi comprendre que le chirurgien, et moi je suis un chirurgien, nous sommes beaucoup l'esclave de notre créativité, notre forme, la forme qu'on veut créer. On est beaucoup dans l'anatomie et l'orthodoxie de la forme, nous sommes des esclaves. Ça veut dire comme l'artiste, la liberté de prendre un peu de la pierre pour être un sculpteur, ou la peinture, ou le marbre. Nous avons un matériel très noble que la chair humaine, que ne peut pas les réinventer. Ça veut dire que dedans ce qu'on peut faire, nous avons énormément de limitations. Mais par contre, on a apporté énormément aussi de bonheur, parce qu'un être humain qui n'est pas heureux avec son image, qui n'est pas en harmonie avec soi-même, il n'a pas cette énergie vitale qu'il a besoin pour être en face de son propre monde, son propre Dieu. Ça veut dire la résultante finale de notre chirurgie, c'est quelqu'un qui soit en paix avec son image.
Derrière le personnage médiatique, il y a aussi un homme et une histoire que nous raconte Bertrand Matteoli, chirurgien esthétique à Paris.
Ivo Pitanghi est né à Belo Horizonte, qui est dans le pas très très loin de Rio. Son père était chirurgien. Et donc à 16-17 ans, il avait déjà, puisqu'il aidait souvent son père, une maîtrise chirurgicale que quelqu'un qui n'a jamais baigné dans le milieu chirurgical m'aurait peut-être mis 10 ans de plus. Et puis très vite, après une fois que, donc à 21 ans, il était chirurgien. En France, on est chirurgien 30 ans, quoi, enfin en gros. Et après, il a eu la chance de pouvoir aller, c'était juste après la Seconde Guerre mondiale, aller se balader un peu partout dans le monde. Donc il est allé aux États-Unis, donc il a vu les grands chirurgiens de chirurgie réparatrice, je crois que c'était à Houston, si je ne me trompe pas. Enfin, il a appris à parler anglais. Ensuite, il est allé en Angleterre chez McIndoo et Gillis, qui étaient aussi des chirurgiens qui avaient été très particulièrement intéressés par la chirurgie des brûlés pendant la Deuxième Guerre mondiale, parce que il soignait tous les pilotes de la RAF qui étaient pas morts. Mais la particularité des pilotes d'avion, souvent, c'est que l'avion il prenait feu. Et les gens qui étaient des jeunes hommes de 22, 23 ans, pilotes d'avion, ils étaient complètement brûlés. Et donc, Gillis et McIndoo ont été les premiers à vraiment être spécialisés dans les traitements des brûlés, ce qu'a appris Pitanguy. Ensuite, il est venu en France, où il a passé 2 ans chez Iselin, c'était à Nanterre, c'était un grand service de chirurgie de la main, donc il a pris la main. En même temps, il a appris à parler français aussi, et puis à se faire des relations dans les milieux germano-pratins, puisque c'était juste après la guerre. Et après, je crois aussi qu'il est allé en Allemagne. Donc quand il est rentré au Brésil très jeune, il avait une connaissance chirurgicale très approfondie, puis il parlait 5 langues couramment. Il y a eu cet accident du cirque nord-américain à Niterói. Niterói, c'est la ville qui est en face de Rio. Maintenant, il y a un pont, mais à l'époque, il n'y avait pas de pont, donc ça mettait à peu près 2 heures de route. Et je crois qu'il y a eu... Enfin, c'était, vous savez, les cirques énormes avec 3-4 tentes, et qui a complètement pris feu, et je ne sais pas combien de centaines de morts il y a eu. Et 500 morts, et puis des centaines et des centaines de brûlés. Et personne ne savait traiter les brûlés au Brésil, à part Pitanguy, qui avait cette notion-là. Donc, d'un seul coup, il est devenu... Bah, mondialement célèbre, parce que il passait sans arrêt à la télé, dans les médias. Beaucoup de gens lui ont reproché, du reste, de passer beaucoup de temps dans les médias, peut-être moins en salle d'opération, mais ça, c'est les mauvaises langues. Et c'est ça qu'il a lancé complètement. Night clubbing, we're night clubbing. We're walking through town. Night clubbing, we're night clubbing. We walk like a ghost. We learn dances, brand new dances, like the nuclear bomb. When we're night clubbing, bright white clubbing, oh, isn't it wild?
Lunettes noires pour nuit blanche à Rio en 1989 avec Thierry Ardisson.
Chico, ouais, on va à Gavia chez Ivo Pitanguy. Ivo Pitanguy, c'est le plus grand chirurgien esthétique du monde.
Quand il ne voyage pas dans le monde entier où les maris de ses clientes le reçoivent à la présidence ou au Palais Royal, Ivo Pitanguy opère 4 à 5 fois par jour. 30 000 interventions en 30 ans.
Est-ce que vous n'avez pas le sentiment d'être un peu fausse finalement, de donner aux gens l'éternelle jeunesse d'une certaine façon, non?
Vous savez que malheureusement, je ne suis pas fausse dans ce sens-là. Peut-être cette jeunesse qu'on donne, ça vient du contraire, parce que Faust voulait la jeunesse, la vraie. Mmh. La vraie jeunesse, c'est un rêve que nous, même pas le droit de donner, parce qu'on doit donner à quelqu'un la sensation d'être dans soi-même, d'avoir plus de confiance dans son image.
C'est un monsieur qui recherche en toute chose l'excellence.
La journaliste Diane Vulbeck.
Il gagne très vite beaucoup d'argent et parmi les premières acquisitions qu'il fait, il achète un chalet à Kstatt. Donc là, c'est les années 60-70 jusqu'aux années 80. C'est la jet set de ces années-là, telle qu'on peut, qu'on l'a connue ou qu'on peut l'imaginer. Et donc, il va fréquenter les heureux du monde. Les coutettes couronnées, les mégastars internationales, et certaines d'entre elles vont venir solliciter ses services. Et ça se sait dans un petit monde comme ça, très resserré, où à l'époque il n'y a pas tant de chirurgiens esthétiques qu'il peut y en avoir aujourd'hui, ça se sait, donc on vient le voir jusqu'à Rio. Ça il ne le dit pas. Il ne le dit pas, il se refuse à le dire. Il s'en sort toujours par des pirouettes, considérant que la presse en rend compte bien mieux que lui. Et il s'amuse même de lire les noms de certaines stars qui disent s'être faites opérer par lui, alors que jamais il ne les a vues. Le seul nom qu'il accepte de dévoiler, c'est celui d'Albert Pagliari, qui vient le voir dans les années 80. Il ne sait pas qui il est. Donc c'est un Français qui dit ne pas être très satisfait de son visage, qui voudrait être un peu plus harmonieux, ceci, cela. Il ne sait pas du tout. Bon, il fait son job. Le type s'en va très content. Et des années plus tard, il découvre que c'était Albert Pagliari. C'est le seul. Mais sinon, non, il se refuse à donner des noms. Alors, on dit qu'il aurait opéré Faradiba, laquelle Faradiba lui aurait amené François Mitterrand, et ainsi de suite, et la duchesse de Windsor, et ceci et cela. Et ça, on est encore dans les années 60-70. Et alors, ce qu'il fait, c'est qu'il est malin, et il crée son école. Pourquoi dit-on que c'est le père de la chirurgie esthétique? Parce que c'est le premier à avoir publié des milliers d'articles sur le sujet dans lesquels il décrit par le menu les techniques opératoires qu'il a mises au point. Encore une fois, on n'est plus dans le registre de la chirurgie réparatrice. Là, maintenant, on est dans la chirurgie esthétique. Et donc, l'augmentation du volume des seins ou la réduction, la modification des contours du corps, la rhinoplastie, tout ça, il va le décrire et publier à grand renfort, là aussi, de citations, parce que dans des revues médicales, on parle rarement de Michel Foucault ou je ne sais qui. Bon, lui, alors, il y va aussi, parce qu'il adore ça. Bon. On dit de lui, ses confrères disent de lui que c'est le philosophe de la plastica. On se moque gentiment de lui parce qu'il ne peut pas s'empêcher de ponctuer tous ses propos d'une citation. Alors, bien sûr, Baudelaire, je suis belle ou mortelle, comme un rêve de Pierre, mais ça peut être, je vous dis, Michel Foucault, ça peut être, tout y passe, tout. Donc, il est deuxième dan de judo, il fait de la plongée sous-marine, il parle 6 langues, il conduit son propre avion, il possède une île dans laquelle il va avec son hélicoptère, il reçoit sur son île toute la jet set du monde entier. Tom Cruise a voulu rencontrer le docteur Pitanguy et découvrir l'île du bon docteur Pitanguy qui fait fantasmer tout le monde. Effectivement, c'est une île merveilleuse. Avec des animaux qui vivent en liberté. Alors, il se targue aussi d'avoir son siège, son fauteuil à l'Académie des Lettres du Brésil. Rien n'est assez n'est suffisant. C'est toujours aller au-delà, au-delà, au-delà. Il bâtit sa notoriété aussi là-dessus.
Un mot quand même sur l'aura d'Ivo Pitanguy au Brésil. Ayrton Senna, le défunt pilote de Formule 1, Pelé, le roi du football, Ivan Pitanguy, avec ces trois hommes, on raconte le Brésil d'hier et d'aujourd'hui.
C'est une gloire nationale. Alors, il y a même une expression qui court encore aujourd'hui, c'est être un Pitanguy. Être un Pitanguy, c'était être un homme bon, intelligent, généreux. C'est un homme remarquable. C'est être un Pitanguy.
Être un Pitanguy, ça se mérite. Et ça se fête aussi, comme en 1999, avec cette chanson écrite par une école de samba à la gloire de l'univers de la beauté et de son génial créateur. Le chirurgien a paradé cette année-là au carnaval de Rio en tête de défilé à la proue d'un bateau en carton-pâte. Une dizaine d'années auparavant, en 1988, Bertrand Matteoli part se former auprès d'Ivo Pitanguy.
Je finissais la fin de mon internat de chirurgie et j'avais un patron à Paris qui m'avait dit « Il faut à tout prix que tu ailles passer au moins un an chez Pitanguy » parce que Pitanguy, à l'époque, c'était vraiment le pape de la chirurgie esthétique. C'était vraiment le maître, c'était le Picasso de la chirurgie esthétique. Et puis voilà, je suis donc arrivé chez lui comme fellowship en 88-89. Rio Fellowship, c'est-à-dire que c'est un compagnonnage, il avait besoin d'un assistant, il prenait 2 assistants par an. Et j'ai eu la chance, c'est le privilège, d'être son assistant pendant 2 ans.
Qu'est-ce qui vous a transmis en termes de technique, mais aussi en termes de valeur?
En termes de technique, si vous voulez, à l'époque, il n'y avait pas d'équivalent, je pense, dans le monde. C'est-à-dire que on voyait ce qu'on voyait chez Pitanguy, en une journée, ce qu'on voyait dans le meilleur hôpital parisien en 15 jours ou 3 semaines. Parce qu'il y avait un débit de chirurgical, il y avait un nombre d'interventions qui était très impressionnant. Ça, c'était donc une chance de pouvoir voir une multitude d'interventions. Sur le plan technique, c'est un chirurgien qui était d'une habileté relativement exceptionnelle, diabolique, J'ai vu quelques chirurgiens qui opèrent aussi bien que lui, mais honnêtement, pas beaucoup. Il avait une philosophie de la chirurgie esthétique qui faisait des gestes qui étaient efficaces, mais simples, pas très compliqués, en prenant peu de risques. Enfin, le moins de risques possible. Ce qui fait qu'il pouvait assurer des suites opératoires qui étaient quasiment constantes.
Concrètement, vous dites qu'il y avait du débit, il y avait des gestes. Il vient de la chirurgie réparatrice. Un de ses traumas, c'est 1961, un grand incendie où il doit opérer. Qu'est-ce que vous avez opéré? Des becs de lièvre, des déformations ou des gens qui venaient pour des soucis esthétiques?
Moi, quand j'étais chez lui, il y avait deux choses. Il y avait d'abord sa clinique à Botafogo, une clinique d'un modernisme et d'un luxe phénoménal. C'est-à-dire que je crois que c'est une clinique privée, hein, appartenant à un seul homme. Je crois qu'il y avait 80 personnes qui travaillaient dans la clinique. Il y avait 4 salles d'opération, un amphithéâtre, puisque les interventions étaient retransmises par vidéo. Et c'était retransmis dans un amphithéâtre où il y avait une trentaine de places, donc des chirurgiens du monde entier venaient le voir opérer. Dans cette clinique-là, c'était essentiellement de la chirurgie esthétique et un peu de chirurgie réparatrice. Mais il était aussi chef de service d'une, ce qu'on appelle une infirmerie au Brésil, c'est d'un service à l'hôpital Santa Casa de la Miséricordia, qui est beaucoup plus dans le centre de Rio, donc dans un endroit moins chic, entre guillemets, et c'est un hôpital public. Bah, c'était franchement, là on passait de l'hyperluxe, c'est-à-dire ce qu'on ne voyait pas et ce qui n'existait pas ni en France, ni aux États-Unis, ni n'importe où dans le monde de sa clinique privée, à un hôpital public brésilien. Et là, on arrivait dans le quart monde, quoi. C'est-à-dire qu'on passait vraiment dans la salle d'opération avec 2 tables dans la même salle, parce qu'il n'y avait pas de quoi faire des murs, vous voyez, où on économisait les fils, où les gens qui étaient opérés étaient des gens qui pouvaient être vraiment des gens de qui avaient très peu de moyens financiers. Et là, il y avait à la fois de la chirurgie réparatrice et de la chirurgie esthétique. C'est-à-dire qu'il y avait à l'hôpital public brésilien le moyen de se faire opérer en chirurgie esthétique pour pas cher. Enfin, pas cher, c'était l'équivalent à peu près d'un mois de salaire de minimum, même pas minimum, enfin d'une employée de maison. Ça voulait dire que c'était, pour quelqu'un de pas riche au Brésil, c'était faisable. Une femme de ménage pouvait se faire réduire les seins ou pouvait s'offrir un lifting à l'hôpital public.
Est-ce que les gens de basse condition financière, c'était un peu vos cobayes sur lesquels vous pouviez vous faire la main?
Non, non. Alors, honnêtement, pas du tout. Pas plus qu'à l'assistance publique à Paris ou dans n'importe quel hôpital. On n'était pas là pour rigoler. Hein. C'était très sérieux. D'abord, il y avait des cours, sans arrêt des cours pour apprendre à faire des pansements. Si vous voulez, c'était ce qui maintenant paraîtrait peut-être pour des jeunes chirurgiens banal. À l'époque, c'était vraiment révolutionnaire parce que c'était la première fois que je voyais quelque chose d'aussi rigoureux et structuré. C'est-à-dire que tout était expliqué. Le pansement du lifting, on avait un cours sur les pansements du lifting, sur comment traiter un hématome. Et après, il y avait des interrogations, quoi. Pitanguy repassait, si la suture n'était pas belle, on recommençait. On pouvait recommencer 10 fois, 15 fois. Il fallait que ce soit parfait. Enfin, c'était pas de l'approximation. C'était rigoureux. Très rigoureux.
Confirmation avec Ivo Pitanguy, âgé aujourd'hui de 89 ans. Le chirurgien a vieilli et le roi des interviews peine à retrouver les formules qui ont fait sa célébrité.
Et on a commencé à former des gens à 3 ans, après la base d'un chirurgien général de 2 ans. Alors c'est une école que je me suis beaucoup donnée, que je me donne encore, et que je suis vraiment très fier, parce qu'on a continué à former, et surtout on a formé des gens avec le même esprit qu'on avait, le même esprit de ne pas garder et de vraiment croire que le plus noble qu'on peut faire, c'est de transmettre la connaissance et la responsabilité de la connaissance qu'on avait acquis, de la passer à d'autres. C'est ça que forme l'école. Alors, j'ai aujourd'hui beaucoup de ceux que j'ai formés à 30 ans, 40 ans, qui sont des professeurs qui ont déjà formé cette école dans plusieurs parties du monde et dans tout le Brésil.
Mais être bien avec son image au Brésil, ça veut dire quoi concrètement pour une femme de la rue? Parce qu'avant, vous avez opéré des stars, des gens très connus, mais maintenant, c'est tout le monde qui veut être opéré.
Parce que l'être humain, il ne veut pas être différent de l'autre. Il veut être comme les autres. Si celui-là habitait dans une île où il aurait seulement des gens avec l'oreille décollée, il serait très content. Mais alors finalement, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est que l'être humain fait ce qu'il veut. C'est pas la beauté, il veut être bien, bien avec son image. Ça veut dire qu'il existe aujourd'hui une dilution de le sens de beauté. Il a un sens de beauté avec la santé l'essence de beauté qui est universelle dans ce sens-là.
Esclave du miroir magique, à court du plus profond des espaces, par les vents et les ténèbres, je te l'ordonne. Parle ! Et montre-moi ta face.
Que veux-tu voir, ma reine ?
Miroir magique au mur, qui a beauté parfaite et pure ?
Célèbre est ta beauté, majesté. Pourtant, une jeune fille en loques, dont les haillons ne peuvent dissimuler la grâce, est hélas encore plus belle que toi.
Quel regard portez-vous sur le pape de la chirurgie esthétique, Ivo Pitanghi, et sa célèbre citation qui dit que le psychanalyste sait tout mais ne fait rien, et que le chirurgien esthétique ne sait rien mais fait tout?
Absolument.
La psychanalyste Johanna Novaes, coordinatrice du Centre d'études des maladies de la beauté à l'Université catholique de Rio.
Cette citation d'Ivo Pitanghi est très représentative d'une culture qui, dans notre pays, valorise l'apparence plus que l'intériorité des individus. Ici, la psychanalyse n'a pas le vent en poupe. Puisque c'est une recherche qui a besoin de temps pour aller au fond des problèmes de quelqu'un. Le chirurgien est lui considéré comme un bienfaiteur, un créateur d'œuvres d'art. C'est symptomatique d'une époque qui se moque de valeurs subjectives et qui valorise à outrance le corps comme un bien dans lequel on doit investir des pensées sans compter.
Vous avez écrit un livre qui s'appelle « Which body shall I wear ?»« Quel corps vais-je porter ?» comme si le corps était un vêtement. Comment est-ce que on en est arrivé là aujourd'hui au Brésil?
De fato, o corpo no Brasil é a roupa. Ao contrário,
le corps au Brésil est un vêtement. C'est un fait.
Serve muito mais como um adorno.
En Europe, Brasil, les vêtements sont choisis pour orner le corps. Au Brésil, et surtout à Rio, la plage fonctionne comme une arène sociale. Et c'est la nudité qui est au centre des préoccupations. Celui ou celle qui a un beau corps l'expose au regard des autres. Le corps, c'est la valeur maximale dans notre pays. Un capital à faire fructifier.
Fondamental. Un valor máximo.
Mais avec des différences selon les classes sociales. C'est ce que j'étudie dans mon second livre, intitulé « Dans quel corps je me déplace ?»
Trabalho justamente a diferença dos usos do corpo.
J'y évalue les usages du corps selon qu'on a de l'argent ou pas. Les riches ont un rapport de culpabilité et de honte, notamment par rapport à l'excès de poids. Alors que pour ceux qui sont moins aisés ou carrément pauvres, être gros est synonyme de prospérité. N'oubliez pas qu'il y a encore 20 ans au Brésil, des gens mourraient de faim. Donc être maigre pour certains renvoie à cette réalité historique, la misère. Le lieu pour voir ces différents usages du corps, c'est la plage. Cette arène sociale dont je parlais. Et elle est tout sauf démocratique. Elle répond au contraire à une cartographie bien précise. Chaque carioca sait exactement où il doit aller en fonction du corps qu'il a. Chez les plus aisés, on utilise même l'expression « la pastorale de la sueur ». Quand on s'expose sur le sable, on montre aux autres le résultat des exercices et de l'entraînement auquel on s'est astreint pendant toute l'année. Chez les autres, on montre donc ses bourrelets sans complexe, car se priver n'est pas ce qu'on privilégie.
Não é um valor máximo como é nas classes dominantes. Uma fábula contemporânea, né? São as pessoas que
les médias véhiculent sans arrêt la même fable. Les beaux circulent avec aisance dans la société. Pour avoir accès aux biens de consommation, il faut être beau. C'est comme si on voulait entrer dans une fête et qu'on n'avait pas d'invitation. Il faut être beau. Le corps est la porte d'entrée, le passeport pour avoir accès à ce monde de la consommation. On se moque des études que vous avez faites ou de la pensée que vous développez.
Après avoir chauffé le produit dans vos mains, appliquez depuis le centre du visage vers les tempes en évitant le contour des yeux. Puis, massez votre cou de bas en haut et de gauche à droite. Cette technique permet de détendre les tissus de la peau. Pincez énergiquement la peau du menton de bas en haut pour stimuler la microcirculation. Terminez l'application en partant du centre du visage vers les oreilles, puis du centre vers le front et finissez par les tempes. Enfin, placez vos mains sur vos oreilles pendant quelques secondes. Prenez une inspiration profonde et relaxez-vous.
Si on s'arrête d'abord sur le corps des femmes, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose par rapport à l'âge et le corps de la jeune fille qui est une espèce d'idéal où la femme ne veut pas vieillir et donc ne veut pas céder la place à sa fille dans le regard de l'homme ?
Creio que seja um fenômeno brasileiro, isso que você acaba de descrever, somente. Mas entendo que há uma erotização do corpo muito grande, inclusive.
Ce fenômeno n'est pas typique du Brésil.
Históricas, inclusive, o carnaval.
Mais c'est vrai que dans notre pays, on assiste à une grande érotisation du corps de la femme, pour des raisons historiques.
O que leva à uma estigmatização do corpo.
Le carnaval de Rio est évidemment le cadre privilégié de cette érotisation.
E a magreza são na sociedade de consumo dos valores máximos. E por essa razão, não só as mães de meninas cada vez mais novas estimulam que essas adolescentes façam cirurgias plásticas.
Rester jeune et mince, c'est aussi ce qu'on attend d'une femme. Il y a des mères qui incitent leurs filles à aller voir un chirurgien, alors qu'elles-mêmes essaient de repousser le vieillissement.
Não valorizar a sociedade brasileira e a sociedade mundial. O velho não tem espaço.
Vieillir dans notre pays,
privilégié.
Ce n'est pas valorisant.
Nem a tradição. Por essa razão, a magreza e a juventude.
Il faut rester jeune et mince.
Caráter.
La femme au Brésil se résume à son corps.
É vista como ainda é vista de uma maneira muito conservadora
como objeto sexuel qui doit être prêt à consommer.
A ser consumido. No entanto, atualmente, numa sociedade de espetáculo, de culto à imagem, aonde a minha aparência ela deve representar inclusive
nous vivons dans une société du spectacle qui voue un culte à l'image.
Olhar não é o de alienação. Saúde.
Je ne sais pas si on peut parler d'aliénation collective.
De nós destacar.
Mais en tout cas, la personne qui ne dépense ni temps ni argent dans la transformation de son corps, la personne qui ne fait rien pour rester mince et jeune, eh bien, cette personne est considérée comme malade. Elle est considérée comme déviante.
Société du spectacle, société de la consommation, société dominée par la publicité.
comme celle faite à la maison par ces consommatrices brésiliennes des crèmes de jour signées Ivo Pitangui.
Indication du docteur Ivo Pitangui, qui est un fameux chirurgien plastique brésilien. Essa receita é bem famosa, mas se você ainda não conhece, continue assistindo esse vídeo. Nessa receitinha de antiidade caseira vão quatro produtos: o Bepantol, a Hipogloss, vitamina A e vitamina E.
Herminda Oliveira a 55 ans. Elle est pharmacienne et l'économie de la chirurgie esthétique, qui pousse certains à souscrire des prêts bancaires ou à participer à des loteries pour s'offrir une opération, eh bien cette économie, elle la vit au quotidien dans sa boutique.
Eu considero quase uma explosão, porque eu vi quando os primeiros produtos entraram, que
moi, j'ai assisté à une véritable explosion des ventes de produits pour améliorer la beauté des gens. J'ai été une des premières à expérimenter le collagène. Au début, on avait des allergies. On souffrait d'effets secondaires. Et j'ai vu l'arrivée des prothèses mammaires au Brésil il y a à peu près 30 ans. Aujourd'hui, c'est banal, on voit ça tous les jours à la télévision. Les femmes se sacrifient pour se payer des implants pour les seins. Certaines jeunes filles le font très jeunes. Ça part dans tous les sens. Il n'y a aucun contrôle. Et puis je propose aussi, en tant que pharmacienne, avec de nouvelles molécules, des vitamines. Et j'ai une clientèle pour tout ça. Le marché de l'amaigrissement a explosé, tout comme celui pour lutter contre le vieillissement. J'ai vendu récemment un médicament à 230 euros pour perdre du poids.
De tanto que as pessoas buscam isso e está muito verdade. Então, hoje aqui o Brasil hoje ele está em cima da estética, nós mulheres.
La chirurgie esthétique, on en parle depuis des années. Mais ce qui se développe maintenant, c'est l'alimentation avec pilules, vitamines.
Tanto interno e alimentação saudável, academias. As academias estão lotadas também, né?
Sans parler des salles de sport. Muita gente
em academia.
Qui se sont installées à chaque coin de rue.
Reposição de nutrientes, né? Eu consideraria isso.
Est-ce que dans votre cercle d'amis femmes, il y en a une qui refuse tout ça? Ou est-ce que c'est devenu tellement banal que vous parlez de chirurgie esthétique comme d'autres femmes échangent des recettes de cuisine ou parlent de mode? Est-ce que toutes vos amies ont fait au moins une opération ou plusieurs?
Mon associée, qui est aussi ma meilleure amie, elle est pire que moi. Elle a tout refait. Elle s'est fait retirer la bouche à droite, à gauche. Elle mange des graines. Et puis c'est presque tout. Parce qu'elle veut rester mince. Avec mes autres amis, on parle de tout ça. Pas uniquement parce qu'on a un peu du milieu. Et s'il nous reste un peu d'argent, on le met de côté pour s'acheter du Botox.
E eu decidi fazer os procedimentos estéticos, né? Há bastante tempo, a primeira coisa que eu tive contato e
en ce qui me concerne, moi j'ai amélioré mon visage avec du collagène autour de la bouche, des yeux, sous les joues.
E depois eu fiz a cirurgia de mamas, quando eu já tenho três.
Et puis, après avoir eu trois enfants, mes seins tombaient un peu. J'avais honte de retirer mon t-shirt à la plage. Donc j'ai mis des implants mammaires en silicone.
Eu tinha em torno de 30 e poucos anos, 32 anos mais ou menos. Eu trabalhava numa empresa que...
Quand j'ai fait tout ça, j'avais 32 ans. Je travaillais alors dans une entreprise qui importait des produits français comme le Botox. Et il y a 20 ans, c'était encore rare. Donc j'en ai profité pour les tester sur mon visage. Et depuis, je suis toujours la première à lever le doigt pour essayer une nouveauté.
E assim, eu queria deixar claro que eu faço essas coisas não porque eu quero ser mais jovem.
Je voudrais préciser que je ne fais pas tout ça pour avoir l'air plus jeune.
Mais bonita,
Si j'ai de la chirurgie, c'est pour être plus belle. Je pense que la technique est là pour ça, au service des femmes qui veulent rester en bonne santé. C'est valable aussi pour les hommes. Ce n'est pas la jeunesse, l'objectif. C'est vraiment la beauté. Comme je suis une professionnelle de la santé, j'ai des amis chirurgiens. Et généralement, ils me font des réductions. J'ai participé comme cobaye à des tests cliniques. Parfois, je leur apporte de nouvelles patientes. Et du coup, ils me font encore une réduction. Ça marche comme ça entre nous. Mais tout ça, ce n'est pas à la portée de toutes les femmes. C'est cher. Les médicaments, les vitamines, tout ça, c'est un budget. Avec mes amis, on se demande si on a raison de faire tout ça. Car il y a des femmes qui refusent de faire de la chirurgie esthétique. Moi, je suis plus du côté de Sophia Loren que de Brigitte Bardot. Quand je la vois aujourd'hui, avec ses cheveux blancs et un peu enveloppés, je me dis, comment une femme qui était aussi belle a pu se laisser aller à ce point-là? Et du coup, je me demande si c'est pas elle qui a un problème psychologique. Si elle n'est pas déprimée au point de laisser tomber son corps comme ça. Plutôt que nous qui prenons soin de notre apparence, quitte à faire un peu de chirurgie.
Vous avez deux filles, il y en a une qui a 12 et l'autre qui a 16 ans. Est-ce que au moment de la fête des 15 ans de la première, il y a eu ce genre de conversation qu'on peut trouver dans certaines familles où le père offre la première chirurgie plastique à sa fille? Est-ce que vos filles ont déjà ce souci-là?
La question ne se pose pas à la maison. Mes filles sont tellement belles qu'elles n'ont pas besoin de tout ça. Elles ont hérité de leur mère.
Rio, la beauté à tout prix, avec les chirurgiens Ivo Pitanghi, Wagner de Moraes et Bertrand Matteoli, et aussi Angela Bismarcci, la pharmacienne Erminda Oliveira, la journaliste Diane Vulvec et la psychanalyste Johanna Novaes. Texte dit par Julie Fonroger, Olivier Martineau et Victor de Oliveira. Sur les docs, attachés de production Christine Bernard et Alison Sinard, préparation et traduction à Rio Nolwenn Hervé et Aude Chevalier-Baumel, prise de son Benjamin Thuot et Dimitris Capolan, mixage Alain Joubert, réalisation Gilles Mardi-Rossian, un documentaire de Michel Pomarède.